Vous êtes bien sur Radio Albitzes, voici votre magazine.
Et bonsoir, chers amis, bienvenue sur l'antenne de Radio Albiges pour votre Mac Sport du 19 mai 2017 avec un nouveau format et un nouvel horaire à 17h le vendredi. Aujourd'hui, au menu de votre Mac, vous trouverez du rugby avec le barrage UCO en top 14 face à Toulon ce soir, la demi-finale de l'Avoir face à Rouen dimanche, mais aussi les dernières nouvelles du Sporting Club Albigeois et de ses bouillantes coulisses. Quant au foot, nous reviendrons sur l'avenir de l'aspect Albi avec Bernard Espier, son président, qui vient de nous faire des annonces concernant la saison prochaine. Mais avant tout, pour ouvrir ce mag, nous allons parler du bouillant derby, toujours en foot, ce samedi à 20h, au Stade Rigaud, en DHR, entre l'USLB 2 et le Marsac SRDT, avec pour enjeu le maintien. Les deux clubs sont au bord du précipice, les Marsacois qui se passeront chez leurs voisins sont 8e avec 45 points, à 3 points de la zone de relégation, tandis que les Albigeois, 9e avec 43 points, ne disposent que d'un point d'avance sur la zone rouge. Autant dire malheur aux vaincus, car 5 équipes se tiennent en 3 points et les places en DHR se mériteront, ce qui augure d'un match bouillant et d'un derby animé. Pour en parler, nous avons eu la joie de recevoir jeudi après-midi, à notre micro, Steph Benedet, coach du Marsac SRDT, avec qui nous sommes revenus sur la préparation de ce match, de la survie. On l'écoute. Steph Benedet, bonsoir et merci d'être à notre micro. Steph, tu es le coach du Marsac SRDT. Ce samedi à 21h s'annonce le match couperé de la saison, le derby face aux voisins de l'USLB, qui définira sûrement si l'aventure en DHR de ton équipe se poursuit. Comment prépare-t-on un match si crucial que l'on peut aisément nommer finale du maintien et qui plus est face aux voisins de l'USLB, Steph?
Ben écoute, bonjour à tous. Par contre, l'horaire est bien 20h pour samedi, 20h pour pas que les gens arrivent à la mi-temps.
Oui.
Et comme tu as pu le dire, la complexité de ce match, c'est que c'est un derby. C'est aussi assez embêtant de jouer un match du maintien avec un autre club tarnais et de qui plus est en plus vraiment le voisin albigeois. Donc après, c'est essayer de le préparer de la meilleure des façons, sans se mettre une pression supplémentaire qui peut être négative, sachant qu'après, la pression est sur Albi puisqu'ils sont favoris, on va dire, et surtout ils nous reçoivent avec cette envie de gagner sûrement, en ayant renforcé sûrement leur équipe 2, puisque leur équipe 1 a déjà acquis son maintien sur la division, est en roue libre depuis quelques matchs et a acquis son maintien sur la division supérieure. Après moi j'ai un groupe jeune, ce championnat est très serré, donc on se retrouve là, c'est vrai, avec 5 équipes qui peuvent encore
en
3 points et qui peuvent être touchés par la relégation sur le dernier match. Alors ce qui est avantageux pour nous, c'est qu'en même temps il y a un match de la mort aussi à l'Union qui reçoit Papus qui avec sa série de matchs invaincus depuis je crois 4-5-6 matchs notamment contre nous. Ben c'est de toute façon on leur a coupé une longue série de défaites et ils ont gagné contre nous et à partir de là ils avaient fait
mobilisés
et derrière ils sont venus gagner Albi, ils ont fait une série de matchs et voilà, donc et là ils ont leur finale qui souhaitaient un dernier match du championnat en se déplaçant à l'Union quoi. Donc voilà, nous c'est pour revenir un petit peu à l'enjeu du match, c'est se maintenir avec un match nul ou un scénario un petit peu compliqué on va dire, Albi est plus dans l'obligation de gagner que nous, mais nous on se doit aussi d'attaquer ce match avec les ambitions de le gagner pour éviter de regarder et de calculer tout ce qui se passe autour. Destin, on l'a entre nous-mêmes, puisqu'avec une victoire,
T'as pas envie de sortir la calculette, on va dire.
Non, et éviter de se prendre la tête, d'avoir des mauvais échos avec les sites internet qui annoncent des scores, et après, en fait, il y a eu un but dans les arrêts de jeu, et etc. quoi. Donc, on va essayer de faire le travail, d'aborder ce match avec sérieux, sans, comme je t'ai dit, se mettre une pression qui, pour moi, peut être négative sur mon groupe. Donc, jouer un match.
En parlant du groupe, tu le sens déterminé, concentré sur l'objectif, tu as senti une bonne dynamique aux entraînements cette semaine?
Après de toute façon mon groupe a voulu tout faire jusqu'à maintenant et c'est vrai qu'on a un petit fait de jeu la semaine dernière qui aurait pu nous mettre à l'abri avec les deux points du match de France. Donc c'est vrai que cette semaine
on dirait qu'il y a eu un arbitrage assez aléatoire.
Ouais, voilà, bon, bah, après ça arrive, mais un arbitre jeune qui prend une décision à la 86e, qui remet en jeu notre avenir dans cette poule-là. Donc c'est vrai que c'est pour nous c'était plus important que peut-être ce qu'il en a eu l'impression sur le moment. Bon, maintenant c'est fait, donc on fait un contre Foix, et derrière, on se retrouve à Albi avec les intérêts que l'on connaît. Après, tous mes joueurs sont passés par l'US Albi à un moment ou à un autre, donc je pense qu'ils seront revanchards dans le bon sens du terme. On essaiera d'être agressif et de gagner des duels, bien sûr, toujours dans le bon sens du terme. Mmh. Et après voilà, donc il y a que le rectangle vert qui définira le sort de ce match, mais je me fais pas de soucis sur les mentalités de mes joueurs. Voilà, donc après on verra avec le groupe, il y a quelques absents aussi, il faut faire avec, mais les jeunes sur lesquels je compte à chaque fois font preuve de, voilà, bien sûr, et donc c'est encourageant pour la suite du club et tout ça, mais c'est vrai que c'est un enjeu quand même assez conséquent pour l'avenir du club, donc c'est à ne pas prendre à la légère.
On va y revenir. Voilà. Mais sinon, tu leur as préparé un petit coup tactique derrière les fagots, comme tu en as le secret, sans te demander bien sûr dévoiler le tableau noir, cela va de soi.
Oui, j'avais déjà des prévisions avant le match de Foix pour le match Albi, et j'ai étudié quelques petits trucs, et je sortirai comme à mon habitude une petite tactique, et s'ils sont attentifs, ça devrait pouvoir payer, quoi. Voilà, toujours s'ils réceptionnent bien le message, voilà, je le dis pas juste pour faire joli ou tenter des petits coups, mais j'aime bien les gros matchs comme ça, et c'est vrai que j'en avais tenté un contre Rodez qui avait failli
marcher.
Qui avait failli un peu marcher, donc même qui méritait de marcher. Donc je me dis que quand ils sont attentifs, comme contre Osson, et parce que je passe du temps à analyser l'adversaire, à analyser un peu la tactique. Donc c'est vrai que quand des fois ils sont réceptifs à ce que je leur dis, souvent ça porte ses fruits. Voilà. Mais après il faudra être rigoureux. Encore plus que ça, c'est... de l'envie et mourir sur le terrain samedi si on veut ne rien avoir à
côté. Il va falloir mouiller le maillot, ouais.
Voilà, exactement.
Ça va être
c'est plus qu'un match, c'est vraiment voilà, quand tu parles de mouiller le maillot, ça m'interpelle, parce que voilà, c'est un fanion, c'est un petit village qui perdure à ce niveau-là avec les moyens qui est limités qu'il a, donc voilà, il faut qu'il prenne la conscience qu'il y a beaucoup plus qu'un simple match en jeu, quoi.
Tout à fait. Ça, et pour rester dans le sujet, ça va être un match assez spécial, il y a beaucoup de proximité entre les deux équipes, les supporters des deux camps feront sûrement le dépassement. Tu penses que ça va être bouillant, et penses-tu que cela va galvaniser tes gars?
Après, bouillant, après c'est pas trop dans les... Je me suis déplacé dans l'Aveyron pour la Coupe d'Aveyron, tout ça. Là, c'est des ambiances bouillantes. Sur le Toulousain, des fois, quelques dimanches après-midi, ça peut être bouillant. Après, le Tarn n'est pas connu pour ses fervents hooligans, mais après, j'espère juste que...
Ça me parlait d'hooligan, mais plutôt d'ultra.
mais pour parler sur un mot aussi violent, j'espère juste que les joueurs verront qu'il y a du monde qui s'est déplacé et qui leur feront honneur et qui leur ramèneront l'appareil avec une belle prestation sur le terrain, quoi.
Et pour revenir après sur un registre un peu plus généraliste, cette saison du Marsac Sardeté, tu la définirais comment à tes yeux? En deçà de tes espérances, ou vous êtes à la place que vous méritez, honnêtement?
Honnêtement, après moi, tu sais bien, c'est pas trop de cacher les choses, mais on est à la place que l'on mérite. Même si du travail a été fait, même si il nous manque pas grand chose, et on l'a vu plusieurs matchs ces dernières semaines, avec les 4 points de la victoire, on nous mettait à une 4e place dans la poule. Oui. Voilà. Et on voit même là que avec un ou deux résultats de plus favorables, ce qui nous a coûté cher cette année, c'est que peut-être par manque d'expérience, on n'a pas su tenir des résultats, on n'a pas su faire les matchs nuls qui faisaient la différence, puisqu'en fait, avant le match de fond, on était à 2 matchs nuls dans une saison. Je pense qu'on peut rechercher loin, et à part un dernier qui avait duré sûrement 0 victoire dans la saison et qui avait dû accrocher 2 petits nuls, je vois pas ça dans les dernières saisons.
Vous avez été un peu tendre.
Dans n'importe quel championnat. Voilà, on a été peut-être un peu tendre, et des fois fragilisé par un but encaissé alors que le match n'est pas fini, et des fois il faut peut-être mettre de côté certains enjeux et certaines offensives pour pouvoir garder un bon résultat nul à l'extérieur chez un bien classé ou autre. Voilà, il nous manque ces 2-3 matchs nul pour être à une 5e place qui pourrait peut-être être la nôtre.
Mais un peu plus de bouteilles et de vis, ça aurait pu le faire.
C'est ça. Après, c'est des jeunes joueurs, mais justement, pour remplir cette bouteille d'expérience, il faut passer par des saisons comme ça. Donc après, s'ils ont le recul pour en tirer des conclusions, c'est tout à leur honneur. Mais il reste encore une échéance et il ne faut pas passer à côté.
Tout à fait. Pour finir, quel que soit le résultat, maintien ou pas, quel sera l'avenir de ce club? Quel projet a le Marsac SRDT pour le futur? Et continueras-tu l'aventure à Marsac, quoi qu'il arrive, ou souhaites-tu aller vers de nouveaux horizons?
Bon, après moi, le projet n'est pas fini, donc en échange avec les dirigeants, il y a encore, comme je te dis, un groupe jeune, ouais. donc il y a encore des choses à faire. Voilà, il faudra aller chercher des choses pour l'enrichir en expérience, continuer à travailler, continuer à développer le club, parce que c'est plus que l'équipe Fagnon, c'est avec les dirigeants, avec les éducateurs, c'est une école de foot qui tourne bien, c'est beaucoup de dirigeants, beaucoup de passionnés, un comité directeur en or avec des personnes vraiment qui sont là depuis un moment, des amoureux du club, des amoureux du village, des
personnes vraiment... Oui, c'est vraiment l'étendard du village, le massacre Sardété.
Voilà, tout à fait, donc il faut essayer de garder cette âme-là et développer un peu les infrastructures et continuer à développer la formation chez les éducateurs, la formation chez les jeunes, et voilà, continuer à développer ce club parce qu'il y a encore des belles choses à faire, voilà, des belles choses à faire, on manque de quelques outils, mais il y a encore des très très belles choses à faire, et donc c'est pour ça que
Après, la suite logique serait, si mes infos sont bonnes, il y a un nouvel outil qui va arriver, qui sera peut-être à votre disposition, le nouveau gymnase de Marsac.
Ouais, mais je pense qu'un sport comme le nôtre n'est pas favorisé par rapport à beaucoup de sports de salle qui vont bizarrement se pousser dans le village. Donc voilà, c'est pas des choses.
Parce que pour l'hiver, ça aurait pu être utile des fois.
Ça peut être utile, c'est vrai, peut-être plus ludique sur l'école de foot, mm-hmm. mais après il manque quand même le rectangle vert, après je préférerais un petit synthétique ou ne serait-ce qu'un terrain d'entraînement correct ou un morceau de terrain d'entraînement où on puisse travailler la passe, où on puisse travailler des qualités, parce que c'est vrai qu'après les infrastructures sont compliquées, mais je le comprends très bien pour une municipalité qui quand même...
Essaie de faire beaucoup pour le sport, oui.
Voilà, on essaye de... Mais c'est compliqué. Je sais que voilà, les moyens sont de plus en plus limités dans les collectivités, donc c'est pas comme à une époque où il y avait des personnes attribuées, quoi. Et ou alors comme on peut avoir dans des grandes villes. Mais on voit que dans le Tarn, et je pense moi qui ai un peu navigué sur le Toulousain, n'en parlons pas, mais aussi dans l'Aveyron et tout ça, il y a d'autres infrastructures parce qu'il y a d'autres moyens qui sont donnés pour les espaces dans les municipalités. Ça c'est sûr.
Bien sûr. Allez, on va faire une petite dernière question, plus perso. Beaucoup de monde sait que tu es un fan inconditionnel de l'AS Monaco, à la même jusqu'à faire les déplacements à l'étranger lors des matchs européens, pour soutenir ton équipe de cœur. Tu as dû exulter et dûment le fêter hier soir, ce magnifique titre champion de France, 17 ans après le dernier, en 2000. Steph, une petite réaction en tant qu'aficionados de l'ASM?
Eh ben, juste le fait que tu me poses la question me fait frissonner. Donc c'est vrai qu'encore une vraie vraie belle saison que j'ai vécue par moments, comme tu dis, de l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est une vraie leçon d'humilité, de groupe. Je m'en sers beaucoup comme exemple parce que c'est des jeunes qui explosent.
Eux aussi sont jeunes comme ton groupe.
Voilà, ils sont jeunes, mais ce que je remarque, c'est que sur une année sportive comme celle-ci, eh ben, il n'y a pas eu de problème extra-sportif et personne n'a râlé, quoi. Donc ils sont jeunes, mais pas comme d'autres clubs où ils ont été, on va dire, pressés de jouer. Eh ben, là, cette saison, il a fallu tout le monde. Certains ont eu leur carte à un moment et d'autres ont fini la saison, d'autres ont commencé, d'autres. Et voilà, on voit Mbappé qui a mis du temps à avoir du temps de jeu et on voit qu'il explose. Donc ça veut dire qu'à un moment. Voilà, donc ça veut dire que les coachs aussi, quand ils font pas jouer certains joueurs ou qu'ils leur donnent des morceaux de match, c'est volontaire et c'est préparé, c'est réfléchi. Il y a une raison derrière. Donc voilà, moi, si mon groupe peut aussi tirer des leçons de tout ça et se développer comme ça et surtout me procurer la même joie samedi, même si c'est à un degré différent parce que c'est pas le titre de champion, mais ça serait quand même une satisfaction de se maintenir avec la manière dès samedi. Donc c'est vrai que j'ai ma première joie mercredi et elle est vraiment intense, mais encore, elle est pas finie parce que j'ai encore une échéance samedi.
90 minutes... très précieuse qui s'annonce.
Voilà, et on verra donc à la fin du match si je peux avoir une seconde extase.
Merci à toi Steph d'être venu à notre micro, c'était fort sympathique de nous livrer tes impressions et ton analyse d'avant-match et même ton analyse du titre de l'ASM. Nous te souhaitons à toi et tes joueurs bonne chance, comme on dit dans le jargon merde, pour samedi et pour la suite, et en espérant t'avoir très rapidement de nouveau à notre micro.
Ben avec grand plaisir, merci à vous, à très bientôt Loïc et bonne continuation de ce que vous faites, c'est intéressant.
Merci beaucoup, demain Steph, à bientôt.
Allez,
ciao.
Merci beaucoup, au revoir.
Donc, comme vous avez pu l'entendre avec Steph Bindé à notre micro, ce derby sera un match de la mort. Tant pour les Marsacois que pour les Albigeois qui vont préparer avec minutie et détermination cette rencontre capitale. Qui de Marsac ou de l'US Albi 2 se maintiendra? Réponse samedi à 20h au stade Rigou, en espérant qu'avec une savante dose de chance et d'arithmétique, les deux clubs se sauvent. Passons maintenant au foot féminin avec l'ASPTT Albi qui se réorganise. Nous lisons un communiqué de presse du président Bernard Espier qui vient nous arriver à l'instant. Donc, communiqué du 19 mai 2017. L'ASPTT Albi a décidé de ne pas reconduire Adolfo Huillon dans les fonctions d'entraîneur de la D1 féminine pour la saison 2017-2018. L'ASPTT Albi voit ainsi la fin d'un cycle au cours duquel Adolfo Huillon a su faire progresser le club grâce à ses qualités de formateur et à son engagement. Le club le remercie pour tout le travail accompli et va maintenant ouvrir une nouvelle étape dans sa structuration. Le président de l'ASPTT Albi Football, Bernard Espier. Donc, comme vous venez de l'entendre, Adolfo Huillon ne sera plus l'entraîneur des féminines de l'ASPTT Albi, lui qui a réussi à maintenir un groupe jeune, deux saisons consécutives en D1. Nous lui souhaitons plein de réussite pour ses futures aventures sportives et professionnelles. Nous vous tiendrons aussi informés des suites de cette restructuration au sein de l'ASPTT Albi avec prochainement la nomination d'un nouveau coach. Des informations que vous pourrez bien sûr retrouver très prochainement sur les antennes de Radio Albigès. Passons maintenant au rugby, avec tout d'abord le barrage de play-off du Castres Olympique qui se déplace à Mayol ce soir à 21h pour affronter l'Ogre Toulonnais dans un match qui promet d'être très engagé. La composition sera la suivante. En première ligne, Tichit, Mach, Tussac. En seconde ligne, Jacquet et le capitaine Rodrigo Capo-Ortega. En troisième ligne, on retrouvera Caballero, Vaipoudou et Jelon. Rory Coutcourt sera à la mêlée accompagné de Urda Pileta à l'ouverture bien sûr. Eberson et Combezou formeront la paire du centre, quant à Smith et Caminati ils joueront respectivement sur les ailes gauche et droite. À l'arrière, Bérard remplacera Geoffrey Paralis, indisponible jusqu'à la fin de la saison. Quant au banc des remplaçants, il sera le suivant, Genecker, Stroué, Moreau, Maffi, Dupont, Dumora, Montes, Tomo et Po. Pour soutenir, pour soutenir les castrés dans leur épopée, le club propose à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire un déplacement en terre varoise de venir assister au stade Pierre-Antoine de Castres à une retransmission sur écran géant du match, gratuite, bien sûr, cela va de soi. Alors pour suivre les aventures des joueurs du CO dans une ambiance conviviale et très vivante, voire assez bouillante, n'hésitez pas à vous déplacer au stade Pierre-Antoine dont les portes ouvriront vers 19h30 et dont la retransmission débutera sous les coups de 20h45. Pour agrémenter le moment, une buvette sera ouverte et le club espère un fervent soutien à ses supporters dans ce match qui peut envoyer les castrés défier La Rochelle à Marseille en demi-finale du top 14. Allez, ce soir on est tous supporters du CO pour qu'on continue de rêver au bouquet de Brennus. En rugby toujours, Lavaur recevra dimanche à 15h dans son antre des Closades d'ambitieux Rouennais dans une demi-finale aller de Fédéral 1 qui risque d'être haletante. Les Vaurelriens abordent sans pression cette demi-finale, ayant déjà atteint leur objectif de la saison et en plus en affrontant un favori à l'ascension au niveau supérieur. Mais Lavaur, qui a déjà brillamment renversé un des favoris lors du tour précédent, Blagnac, a de l'appétit et cet appétit devient grandissant. Donc espérons qu'avant un retour en terre normande de Périlleux, les Vauréens engagent la victoire et de précieux points d'avance. Alors ce dimanche, passionnés de rugby, tous au stade des Closades à 15h pour soutenir les valeureux joueurs de l'ASEV. Maintenant, passons à l'actualité du Sporting Club albigeois qui tente de se relever d'une année rocambolesque et qui a amené au désastre de la relégation en Fédéral 1. Et comme les mauvaises nouvelles sont souvent groupées, nous avons appris deux mauvaises nouvelles peu réjouissantes pour le SCA. Tout d'abord, nous avons appris que Simaili Rokoudourou s'en allait tout compte fait après 4 saisons albi chez les Rodaniens du Loup, laissant le Sporting orphelin d'un de ses meilleurs ailiers finishers. Mais mercredi soir, une nouvelle bien plus triste est tombée. L'arrêt de la carrière de Julien Reynaud, le capitaine des Jaunes et Noirs, pour cause de blessures au tendon quadricipital. C'est un coup de tonnerre pour la maison Jaune et Noir, car en plus d'être un des cadres du vestiaire, il était aussi un exemple sur le terrain. Toujours disponible, mais avec pudeur et modestie, celui qui nous appellerons l'ancien capitaine du SCA a bien voulu à notre micro revenir en exclusivité sur cette décision, ainsi que poser un regard sans concession sur son parcours dans ce club et cette catastrophique dernière saison. On l'écoute.
Julien Reynaud, Bonsoun, merci de nous faire la joie de venir à notre micro. Vous êtes l'emblématique capitaine du Sporting Club Albigeois. Vous avez été un des piliers, un des guerriers de ce groupe pendant de nombreuses années. Malheureusement, à cause d'une vilaine blessure qui vous poursuit, vous êtes obligé de mettre un terme à votre carrière. Cette décision, j'imagine, bougrement difficile à prendre, vous laisse un brin d'amertume ?
Ouais, ben forcément. Disons que j'aurais souhaité terminer autrement. Voilà, j'avais encore, je pense, quelques années à vouloir jouer. Malheureusement, ben voilà, la blessure m'empêche, mon tendon m'empêche de continuer à jouer. Voilà, c'était clairement trop douloureux pour pouvoir continuer à performer. Donc, donc voilà, malheureusement, ça s'arrête avec. Ouais. Puis de toute manière, oui, le choix de la raison. Puis j'étais pas en capacité de pouvoir ni jouer ni courir, donc c'est je pouvais pas aller au-delà de ça. Et voilà, donc doublement malheureux en cette fin de saison.
On a vu sur les réseaux sociaux une magnifique photo de vous et votre fils venant récupérer vos crampons et votre affaire personnelle dans votre casier. Ça a dû être un moment un peu d'émotion. C'était une page de votre vie qui se tournait, non, Julien?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a été. Ça a été un moment un peu compliqué, comme le sont parfois ces dernières semaines, à certains moments où on a tendance à faire un retour sur tout ce qu'on a vécu depuis.
Ce qu'on appelle un peu le carrefour de vie.
Ouais, c'est ça. Depuis le début de carrière. Et puis et voilà, donc ça fait ressurgir pas mal d'émotions, pas mal de souvenirs importants, plus qu'importants dans ma vie. C'est toujours difficile de se dire que cette page là se tourne, mais encore une fois, voilà, il y a bien plus grave que ça. J'ai eu la chance malgré tout de faire une carrière honorable, dans la mesure où voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre de ma passion pendant quasiment 10 ans. Donc voilà, même si c'est des moments très difficiles de devoir tourner la page comme ça, mais voilà, je reste quand même sur
du positif.
Ouais.
Et même si, bon, dans le jargon, on dit que pour un sportif professionnel, un arrêt de carrière, c'est une petite mort, maintenant, qu'allez-vous faire? Quelle va être votre nouvelle vie, Julien?
Moi, j'avais déjà plus ou moins anticipé ma fin de carrière. Ma reconversion, ça a précipité quelque peu les choses. Mm-hmm. J'avais pas tout à fait programmé que ça s'arrête aussitôt. Mm-hmm. Donc voilà, moi j'ai monté mon agence immobilière sur Albi, qui va pour bosser un peu sur Albi et Toulouse. Il y a maintenant quasiment 5-6 mois. Donc je vais me consacrer essentiellement à ça.
Et à ce nouveau challenge professionnel.
Ouais, tout à fait. Et puis j'ambitionne aussi de garder un pied dans le rugby, et j'espère vraiment au Sporting.
Donc on risque de vous revoir peut-être sur les bords de terrain, un de ces quatre, ou aux alentours.
je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, c'est un souhait. Je crois que j'aurais du mal à couper le cordon du rugby comme ça, après quasiment 25 ans à courir après un ballon ovale. Donc voilà, non, je ne sais pas encore sous quelle forme, je ne sais pas comment, mais effectivement, il y a de grandes chances que malgré tout l'aventure rugby soit pas complètement terminée.
On le comprend allègrement. Sinon, pour revenir sur le sportif, comment avez-vous vécu cette saison en rocambolesque qui a mené à la relégation? Vous qui étiez de l'intérieur, mais qui du fait de votre blessure avez pu voir les choses d'un regard un peu plus détaché, n'avez-vous pas constaté de nombreuses défaillances ou erreurs? Certains pointent du doigt la direction, d'autres l'ancien staff, quand d'autres rejettent la faute sur les joueurs. Vous, votre analyse, Julien?
Déjà, dans ce genre de situation, à mon sens, les responsabilités sont clairement partagées. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas faire une chasse aux sorcières. C'est pas, y a des responsabilités partagées, clairement. En premier lieu, les joueurs, bien évidemment, on est responsable. Voilà, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte. Hein,
il faut une remise en cause générale, je pense.
Voilà, exactement. Et voilà, non, il y a eu aussi voilà, quelques difficultés avec le staff en place, avec un certain moment, c'est vrai, mais je l'ai déjà dit par voie de presse, c'est le conseil d'administration a quelque peu délaissé le sportif par.
Je pense que ça ne fait pas l'entreprise.
Ouais, c'est ça, sans doute par mégarde. Disons, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au club, il y a un peu plus de 6 ans de ça, le club était exsangue au niveau des finances. Je crois que le conseil d'administration à ce niveau-là fait le travail et le boulot pour assainir les comptes. À l'inverse, c'est vrai que la partie sportive a été délaissée. Il y a eu un léger abandon de toute la formation albigeoise, il y a eu un abandon sur les structures.
Le budget de la formation est passé de 900 000 à 300 000 euros.
On a absolument pas évolué sur la partie des structures, alors qu'elles soient d'entraînement, de réception, enfin, de tout point de vue sportif, hein, au niveau sportif. Bon, voilà, après, c'est pas le moment de faire le détail, mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, les responsabilités sont partagées. Ça va plus loin que, il n'y a pas qu'un seul responsable dans ce genre de catastrophe industrielle, et il y a des responsabilités. C'est un naufrage collectif, exactement, et je crois que, enfin, j'espère surtout que chaque entité sera en mesure de prendre du recul et que ça serve à l'avenir, quoi. Et que ça serve, parce qu'il faut que ce club d'Albi, je crois que sa vraie place, c'est l'Ampro des deux, vraiment. Et il faut qu'on soit à terme en mesure d'avoir un club structuré, performant, et une très belle image pour Albi.
Avec une vision d'avenir.
Voilà. Avec une vision d'avenir, avec un projet, avec des jeunes qui retrouvent goût à porter les couleurs jaunes et noires, avec du public et des supporters en nombre dans les travées du stadium. Voilà, il faut que ça aille au-delà du club de rugby professionnel. Il faut que ça soit un vecteur social. Tout à fait. Et je crois que ça, on est vraiment en mesure de relever ce défi-là. Mais encore une fois, il va falloir que toutes les entités du club, quelles qu'elles soient, se mettent autour de la table et soient en mesure d'envoyer des signaux positifs, de faire aussi des concessions et pour permettre cela, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faudra aussi mettre parfois certains égos de côté, encore une fois, pour le bien du club. Parce que je le redis, je le répète, ce club se doit d'être en Pro D2.
Il mérite autre chose, ça c'est certain. Ouais. J'imagine que d'arrêter son descente en fédéral, c'est un crève-cœur pour vous. Quel regret gardez-vous de cette saison, mis à part le fait que vous n'avez pas pu vous exprimer sur le terrain du fait de votre blessure, mais quel regret gardez-vous cette saison, si on pouvait en mettre un à part?
Ouais, non, les regrets sont immenses. Mm-hmm. Ils sont immenses parce que... Ouais, exactement. On a la sensation que cette saison est un énorme gâchis quand je vois la performance des joueurs sur cette fin de saison. Mmh. Quand je vois du monde dans le stadium, des gens j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était reparti. On sentait qu'on pouvait clairement la passe d'Albi c'est un projet et pas de défendre malheureusement. Mais on bouscule la gêne. Enfin, on a quand même on perd. J'ai pas les stats, mais il me semble que sur les 10 derniers matchs, on est à 6 victoires, on est à 26 points. Enfin, c'est les stats sur la fin de parcours de 4e, je crois. Bon, ça veut bien dire quand même que...
Qu'il y en a l'être choc après le match.
Qu'il y avait surtout un potentiel énorme qui devait empêcher que le club se retrouve en fédéral. Ça c'est certain, en tout cas. Donc voilà, ça c'est une certitude. Après, il y a eu un électro choc après Van. Encore une fois, je veux pas porter la responsabilité au staff en place en début de saison. Ils ont leur responsabilité clairement. Pour autant, encore une fois, les joueurs aussi et l'ensemble de l'entité du club, tout le monde a sa responsabilité dans cet échec.
Ok, le message est passé. De tous les moments que vous avez passés au CCA sur 6 saisons, pourriez-vous nous citer quelques-uns qui resteront dans un coin de votre cœur? C'est ce qu'on appelle tout le temps les moments forts d'une carrière.
Ouais, c'est vrai que moi je retiens deux saisons à Albi. Ça peut être paradoxal, mais j'ai en tête une saison, c'est la dernière saison d'Henri Moncan où on a un effectif plutôt très très jeune, plutôt
réduit.
Peu très réduit. Avec un groupe franchement extraordinaire. Sur le plan humain, ça a été sans doute ma plus grande saison parce que on a réalisé avec ce groupe-là, il n'y avait pas énormément de qualité.
Vous avez fait une belle histoire que seul le sport peut créer.
Exactement. Personne n'aurait misé sur nous et pourtant, on a réalisé des performances énormes. J'ai en mémoire une victoire à Bourgoin, une victoire à Bourg-en-Bresse. Un match nul à Colomiers, encore un match nul à Roche. dans une saison très difficile avec un effectif ridicule en quantité. Ça a été une saison immense sur le plan humain. On a vécu une aventure terrible. Et après, forcément, c'est l'année qui se suit. On est
avec Hugo Moura.
Ouais, tout à fait. L'année de la saison avec Hugo Moura où là, on réalise.
L'exploit.
On réalise l'exploit de se qualifier en demi-finale. Et en plus de ça, je crois que cette saison-là, si on a malheureusement on arrive dessiné en demi-finale, mais au vu de ce qu'on avait montré sur le terrain, c'est pas ce que mon regret, c'est de cette demi-finale, parce que j'ai la sensation qu'on aurait pu aller encore plus loin.
Oui, et surtout quand on voit qu'après, c'est La Rochelle qui monte et le parcours qu'ils font, ça laisse rêveur.
Ouais, tout à fait. Ouais. Après, je sais pas si on aurait eu le même parcours, mais en tout cas, sur ce match-là, j'ai beaucoup de regrets parce que on arrive, c'est vrai, en bout de course avec l'équipe qui a commis beaucoup, beaucoup de blessures. Et donc, on arrive sur ce match en demi-finale avec un effectif régime, mais pour autant, il y a des regrets sur ce match avec un essai casquette. Il y a plein de regrets alors que je crois qu'on aurait pu encore aller plus loin cette année-là. Ouais.
Ah oui, il y avait un groupe qui poussait derrière. Je me souviens d'avoir assisté à un match au Stadium contre Aurillac où c'était un match assez fabuleux et où il y a eu une énorme intensité.
Tout à fait, ouais, c'est ça.
Avez-vous sinon un message à passer au staff, aux joueurs, aux dirigeants, aux supporters pour l'avenir de ce club qui est aujourd'hui en difficulté? Si vous aviez un conseil à leur donner?
Le conseil, c'est ce que j'ai dit, j'ai pas de conseil à donner, mais en tout cas, j'ai envie que ce qui se produise à l'avenir, c'est une concertation et que chaque entité du club avance dans le même sens, avec un objectif commun, qu'il y ait des concessions qui soient faites de part et d'autre et que le seul, le seul objectif, ça soit le club, et que le club soit au-dessus de tout, au-dessus des égos, au-dessus de tout dans... Et que tout le monde veuille le bien de ce club, ça serait mon objectif. Et je crois que il y a que des gens intelligents qui sont en mesure de comprendre ça. Et voilà, il faut sans doute être en mesure de communiquer plus sereinement et de s'expliquer les choses pour que à terme le club qu'on crée tout simplement un vrai projet. Et puis qu'une bonne fois pour toutes, on bâtisse un vrai projet avec. En coordination avec tout le monde pour ramener ce club dans l'élite et pour l'amener à durer dans l'élite.
Il y a deux dernières petites questions. Bon, on a vu qu'il y avait eu diverses fronts de la saison, celle des joueurs après le match de Vannes, puis celle de Vincent Clément, et ensuite celle des supporters. Comment vous les avez vécu ces moments qui ont été quand même assez difficiles? C'était des moments dans le club qui ont un peu perturbé les choses.
Ouais, bah complètement. À titre personnel, ça a été le lot, je pense, de pas mal de joueurs. Et on a passé quand même beaucoup de nuits blanches. Parce que c'est des moments, pour le coup, qui humainement sont très difficiles. Il y a énormément de tensions. On n'est pas signé pour ce genre de choses. Quand on signe pour du rugby, là, c'est vrai qu'on a été amené à
faire beaucoup d'extra sportifs.
Ouais, voilà, exactement. À faire beaucoup d'extra sportifs et à passer une saison. Ouais, rocambolesque.
Il restera dans les annales cette saison, ça c'est certain.
Ouais, malheureusement, pas bien, mais effectivement, on se serait passé, je crois, d'être assimilé à cette descente de ce club professionnel en Fédéral 1. Ça, c'est en tout cas mon plus grand regret, il est là. Donc maintenant, encore une fois, toute cette entité du club a relevé la tête et à bâtir un projet pour l'avenir.
Qui est les lendemains heureux. Donc pour finir, une dernière petite question, même si vous avez été formé au Stade Toulousain, Julien, vous êtes toujours un supporter du CA et un albivore de cœur?
Ouais, c'est évident, c'est ce que j'ai plus ou moins
l'introduction
dit j'ai plus ou moins dit, c'est-à-dire que moi j'ai été, je suis né à Toulouse, j'ai fait plus de 15 ans à Toulouse, au Stade Toulousain, en gravissant dans les échelons du plus petit des poussins jusqu'à signer mon premier contrat professionnel. Mais je crois que c'est Albi que
vous êtes épanoui.
Que je me suis complètement épanoui. Puis voilà, mon fils est né à Albi, c'est un signe quand même fort de l'avenir. Je souhaite construire mon avenir à Albi, mais voilà, je suis désormais albigeois pleinement. Et j'espère le rester.
Donc les supporters qui vous adorent auront encore la joie de vous croiser dans les rues d'Albi.
J'espère bien.
C'est une très très bonne nouvelle. Merci Julien d'avoir eu la gentillesse, l'extrême gentillesse de venir à notre micro pour nous exposer votre décision et vos ressentis de ce que l'on nommera comme l'ultime message du capitaine Courage. En vous souhaitant toute la réussite et la plénitude nécessaire pour votre nouvelle vie, et au nom de tous les passionnés de rugby et surtout du Sporting, encore merci pour la joie que vous nous avez procurée sur un terrain.
Mais merci à vous.
Mais je vous dis à d'ici à Julien et à bientôt, on l'espère.
Merci, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Encore un grand merci à Julien Reynaud de nous avoir fait le plaisir de cette interview exclusive et aussi toutes nos félicitations pour l'ensemble de sa carrière qu'il a modestement décrit comme honorable mais qui à mon sens fut très belle. Au rayon des rumeurs, pour passer à notre sujet, le Midi Olympique annonce Carno Mella pour être accompagné de son staff par l'ancien espoir albigeois Jérémy Vanin. Et ensuite que certaines de nos sources nous voient aussi accompagnés de Kevin Boulogne et Jean-Christophe Bacca. Donc on s'amènerait vers un staff composé d'Arnaud Mella avec comme adjoint Jérémy Vanin, Kevin Boulogne et Jean-Christophe Bacca. Information à confirmer. Quid de l'avenir de Julien Guyard au Sporting? Ça, nous vous tiendrons prochainement au courant car nous n'avons pas beaucoup de nouvelles du méritant mais ancien coach bénévole du Sporting qui en même temps est, rappelons-le, le patron du centre de formation. Quant à Malik Djebalba, il ne souhaite pas continuer l'aventure albigeoise aux grandes dames d'Arnaud Mella. Pourquoi il ne continue pas? Tout simplement car il est en froid avec les dirigeants du SCA. Mais alors que le Sporting perd un jour de plus, la direction se fait peu disserte cette semaine sur la suite du recrutement qu'elle compte mener. Peut-être que les déclarations de Paul Gauze, président de la Ligue nationale de rugby, cette semaine, ont douché les ardeurs des dirigeants, même des supporters, qui s'accrochaient à l'espoir qu'un club de Pro D2 soit relégué administrativement. Mais si on se réfère au président de la LNR, Albi ne sera pas sauvé par ce biais-là, car pour citer M. Gauze dans les colonnes de Rugbyrama, à ce jour, je n'ai pas été alerté sur un club en particulier par la DNACG. Je pense qu'on est à peu près dans les clous. Un mirage s'envole pour le Sporting Club Abigeois qui, malgré s'être évertué à boucler un budget périlleux, soi-disant d'après certaines sources en grillant ses fonds propres qu'il faudra bien sûr reconstituer l'année prochaine, le SCA voit la Pro D2 s'envoler définitivement, à moins que la DNCG, en grande cachotière, ne surprenne tout son monde. Mais pour finir sur les actualités du Sporting Club Abigeois, et car dans ce club depuis février il ne peut pas se passer 15 jours sans qu'une nouvelle galéjade ou un nouveau scandale ne se produise, nous avons appris en début de semaine que l'administrateur du forum des supporters, et ainsi qu'un autre supporter au moins, était convoqué au commissariat pour une plainte émanant du conseil d'administration du CA pour menace de mort, incitation à la haine et à la barbarie. En outre, plusieurs personnes ont été bannies du forum pour avoir contesté la direction en place. Cette plainte portant sur les propos d'un supporter habitué à faire des punchlines à la Audiard sur le forum et qui cette fois est allé trop loin aux yeux du conseil d'administration est actuellement instruite par les services de police du commissariat d'Albi. Joint ce jour au téléphone, Jean-Jacques Vérac, le directeur général, nous a affirmé qu'il n'était pas l'auteur personnellement de cette plainte mais que c'était l'entité SCA via le conseil d'administration qui en avait fait la démarche il y a de cela plus d'un mois pour protéger le club et ses salariés et car il estimait qu'il ne pouvait laisser passer de tels propos qu'il juge graves et intolérables. Les propos incriminés sont les suivants, je vous en lis des morceaux choisis. Moi je suis prêt à agir. Plus loin, les cartouches sont prêtes, on séquestre les oiseaux. Plus loin, avec privation de nourriture et d'alcool, des sévices corporels, quelques ordalies, on leur pince une bip, je ne vous dirai pas la suite, vous allez voir qu'ils vont revenir à de bons sentiments. Je vous en laisse juger. Même s'il faut le remettre dans son contexte, celui d'un forum des supporters, au moment de la fronde avant la réception de Montauban, forum qui, entre guillemets, a aussi servi de soupape de décompression aux supporters mécontents et qui ont pu écrire des fois des propos dépassant leurs intentions. Mais malgré la légitimité de cette plainte, je ne suis pas sûr qu'elle ramènera sérénité et calme entre supporters et direction. Affaire à suivre. Mais bon, laissons les services de police investiguer pour pouvoir communiquer plus sur ce dossier épineux. Dans de nombreux clubs, supporters et direction marchent main dans la main, mais Albi non, car au Sporting Club Albigeois, c'est Dallas, ton univers impitoyable. Sur ce, cette émission touche à sa fin et est réécoutable en podcast. Merci à Will pour la technique. Je vais vous laisser avec un son d'Alpha Blondie, tant pour fêter le titre conservé de champion du monde de boxe française par Maeva Amadouche, que pour coller avec l'actu du FCA qui porte plainte contre ses supporters dans ce qu'on pourra facilement nommer une opération coup de poing. Allez, à Desias et à mardi, 12h30.
Yes.